Éric Le Goff a bâti il y a 30 ans une entreprise à partir de rien, qui génère aujourd'hui plus de 20 millions de chiffres d'affaires. Une course vers la réussite qui a consumé toute son énergie, le coupant de son propre corps, jusqu'au jour où il s'est rappelé à lui. Désormais, il cherche l'alignement dans chacune de ses actions. Tout est intriqué, le corps, le cœur, l'esprit. À 60 ans, il s'est remis au sport, pratique la respiration Wim Hof, prend des douches froides. Trouver l'équilibre entre ambition et ancrage, entre réussite et jeu, est la clé de l'épanouissement personnel autant que d'un leadership éclairé. Même s'il s'est parfois oublié en chemin, Éric a toujours été guidé par ses valeurs humaines qui constituent l'ADN de son groupe. Car son but, c'est avant tout de permettre à chacun de ses 170 collaborateurs d'éprouver du plaisir à partager ce chemin et à jouer ensemble au grand jeu de la vie. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, start-upper, athlète, père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute! Bonjour Éric.
Bonjour David.
Écoute, j'aime bien commencer ces podcasts par un petit check-in avec lors duquel tu partages un petit peu l'énergie avec laquelle tu viens ce matin. Voilà.
L'énergie ce matin, elle n'est pas forcément complètement là parce que le retour des congés d'été a été assez chahuté avec beaucoup de choses à gérer et notamment un déménagement parce qu'on a... On a un projet qui dure depuis 4 ans, qui était la construction du siège du groupe Alticap. Et donc, ça a nécessité, là, j'ai encore des cartons un petit peu à droite, à gauche de mon bureau. Donc, c'est vrai que c'est toujours une période un petit peu chargée quand même. Mais ça va.
Ça va. Quand est-ce que vous inaugurez, du coup ?
Alors, la construction n'est pas complètement terminée à l'extérieur. Donc, on va attendre, je pense, ça sera peut-être au mois de novembre, j'espère.
Et tu disais que c'était l'aboutissement de 4 ans de travaux, c'est ça ?
C'est un projet qui est né il y a 4 ans pour regrouper les agences d'Alticap qui étaient sur Caen, parce qu'il y avait plusieurs points géographiques. Et c'est vrai que ça date d'il y a 4 ans et ça a pris beaucoup de temps parce qu'il y a eu le Covid entre deux. Et puis le chantier a pris beaucoup de retard après. Donc ça a été un projet oui, de longue haleine. En tout cas, les locaux sont très sympas, on est content d'y être.
Tu pourras en apprécier du coup toute la délivrance lorsque vous aurez enfin pris vos aises dans ces nouveaux quartiers. Et pour ma part, je te fais aussi mon petit check-in. Écoute, une fois n'est pas coutume, j'ai eu une nuit un petit peu dégradée. Mon petit générateur de chaos qui a 2 ans et demi s'est mis en marche plutôt que la normale. Et puis, mais tu sais, quand j'enregistre ces podcasts, je me sens bien, tu vois, à ma place alignée. Et donc, ça a tendance à me donner de l'énergie plus que ça m'en coûte. Donc je suis très heureux d'être là avec toi aujourd'hui. C'est Lionel de l'épisode 61 qui nous a mis en relation. Lionel de la méthode ActiStress. D'ailleurs, peut-être que tu pourrais me raconter un petit peu comment est-ce que vous êtes rencontrés en contact, comment est-ce que vous avez travaillé ensemble.
Alors, Lionel Pagès, je l'ai rencontré il y a, je pense, la première fois en 2017 parce que j'avais mal au dos. Donc je fais partie aussi de l'APM, je ne sais pas si tu connais l'APM, c'est des groupes de chefs d'entreprise, et lors d'une rencontre APM, en discutant comme ça avec un collègue, il me dit « tiens, tu devrais aller voir Lionel pour ton mal de dos, tu vas voir, il est très bien, etc. » Et donc je l'ai rencontré à cette occasion, et effectivement ça a été assez efficace, sauf que de manière assez périodique, je me rebloquais le dos à nouveau. Et puis après, finalement, en 2021, j'ai eu un gros coup de mou, on peut dire, avec des problèmes de le cœur qui s'emballait, qui faisait de l'arythmie, des acouphènes, enfin beaucoup de choses qui montraient que mon corps était en train de m'abandonner dans un état aussi d'épuisement assez fort, donc tout ça lié au stress, et donc c'est à ce moment-là que je suis rentré en contact avec Lionel et que j'ai fait tout un programme chez eux d'accompagnement pour travailler sur ce stress, apprendre à s'y préparer, et ça a été très, très enrichissant pour moi, effectivement. Donc Lionel, et puis j'ai recroisé Lionel via l'APM, parce qu'entre deux, Lionel était devenu intervenant APM, donc je l'ai recroisé sur... le groupe où je suis sur Caen.
Tu avais déjà conscience d'être aussi stressé? Je te pose la question parce que, en tant que chef d'entreprise, parfois on a tendance, en tout cas je devrais parler de moi, j'ai tendance à me couper de mes émotions, à être vraiment dans le faire, dans l'action. Je sais ce que je dois faire, j'avance sur mes objectifs, etc. Et je me coupe un petit peu du corps, de mon ressenti, de mon intuition, de ce que je peux ressentir, même si mes intuitions d'une certaine façon me guident par ma créativité. Peut-être qu'en tout cas, j'avais pas une fine écoute de ces ressentis-là. Toi, t'avais vraiment conscience que tu étais dans une période stressante de ta vie, ou bien c'est le corps qui a somatisé et qui t'a permis de prendre conscience de cet état de fait?
C'est le corps qui m'a ramené à la réalité. Je pense que comme tu le dis, quand on est chef d'entreprise, on se fixe des objectifs. On a une culture aussi on est un winner, hein, il faut y arriver. Donc on est beaucoup dans le mental. Puis on se dit que le mental va faire beaucoup de choses. Et donc on a un rythme de vie, une hygiène de vie qui est peut-être pas toujours au rendez-vous, avec pas beaucoup de sport non plus. Et donc, je crois qu'on tout simplement, on s'oublie. On s'oublie, et quand je dis on s'oublie, on a plus du tout conscience, en fait, de ce corps qui nous porte. Sauf qu'à un moment donné, il peut nous ramener à la réalité. Donc, moi, c'est ce qui s'est passé clairement. Je n'avais pas du tout. En faisant des mouvements très simples chez eux qui paraissent basiques, je te dis, mais j'ai plus d'équilibre, je ne me tiens pas bien, je suis incapable de lever un pied en même temps que le bras droit ou je ne sais quoi, enfin, des petits exercices sympas, tout demande une énergie folle et on... Non, non, j'avais absolument pas conscience de ça, de ce corps. Donc, et ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'écoute de moi et du corps, justement. C'est des signaux très, très importants.
J'interromps ce podcast pour te partager deux techniques flash que tout le monde devrait connaître. La première, le soupir physiologique, est validée par Harvard comme l'outil le plus rapide et le plus efficace pour réguler le stress. La seconde, Uddiyana Bandha, peut réellement améliorer ta digestion et la qualité d'assimilation des nutriments. Je t'explique comment les pratiquer dans ma newsletter gratuite, dont le lien est en description. Alors mets cet épisode sur pause, abonne-toi et reviens ensuite.
Qui viennent nous ramener.
Comment est-ce que tu as rétabli ce contact?
J'ai rétabli ce contact avec tout le programme que j'ai fait chez ActiStress il y a maintenant 2 ans. Et puis avec des routines que j'ai mises en place. Des routines assez simples, basées sur des rouleaux. Des rouleaux de gym avec des picots sur lesquels on vient appuyer sur des points. Derrière les lombaires ou au niveau des trapèzes, derrière les cuisses, devant les cuisses, avec des balles, un tas d'exercices de ce type-là que je fais de manière journalière. Et ça ramène, c'est tout bête, mais on voit tous les points qui se contractent et on reste à l'écoute en faisant ça. Plus diverses choses, je fais beaucoup plus de sport qu'avant, je cours. J'ai aussi un coach sportif sur camp qui vient une fois par semaine, donc avec qui me fait faire un tas de choses, notamment de la boxe que j'avais découvert en faisant mon cycle chez ActiStress. Donc c'est tout ça qui permet de rester au contact réel des choses. Et le corps nous ramène, c'est ces contacts-là qui font qu'on reste finalement dans la réalité, on a une meilleure conscience de soi. Et je pense que je ressens beaucoup plus aujourd'hui quand les choses vont arriver. Enfin, je vois mon état physique. On a pleine conscience en fait de ce qui se passe. On dit, tiens, là, hop, j'ai un truc qui doit un peu coincer. La manière dont on se tient. J'ai fait aussi beaucoup de choses autour de la respiration. Avec la méthode Wim Hof. Donc avec des... Pareil, j'ai fait des stages Wim Hof, donc c'est basé sur le contact avec le froid. C'est pareil, c'est toujours pour gérer son stress. Et on s'aperçoit que le froid, c'est une belle expérience. Parce que tout le monde a peur du froid. Et c'est vrai que d'aller se plonger dans une eau à 3 degrés avec des glaçons, C'est un contact un peu inconnu. Il y a une grosse appréhension aussi de le faire au départ. Et donc quand on surmonte ça, c'est aussi une parabole sur d'autres choses qu'on imagine se passer mal ou qu'on a devant nous. Et le fait d'affronter ce froid, et en tout cas de lâcher prise quand on est dans le froid, parce qu'on s'aperçoit que plus on lâche prise, plus on veut résister au froid, plus c'est difficile. Mais dès qu'on lâche prise, en fait, on le laisse arriver et les choses sont tout de suite plus fluides. Donc c'est aussi un schéma, un bon apprentissage pour les autres situations. Des fois, on va être en mode très rentre-dedans. Des fois, il suffit de laisser un peu les choses couler, revenir dans ses pieds et c'est mieux.
Ouais, j'ai vu que tu avais fait un stage avec Leonardo Pelagotti, qui est un ami et que j'ai reçu aussi sur le podcast.
D'accord.
Et d'ailleurs, j'ai même vu que tu avais emmené tes collaborateurs expérimenter ça. Donc, c'est chouette que tu partages aussi ce qui a pu t'aider toi et que tu le distilles en tant que culture d'entreprise. Mais c'est vrai que c'est assez marrant, c'est assez paradoxal aussi de voir que en tant que chef d'entreprise, tu es tout le temps confronté à des formes de montagnes russes. Tu gères quotidiennement des problèmes et donc tu es toujours confronté au stress. Et donc, tu pourrais t'imaginer que petit à petit, tu développes une forme de capacité surnaturelle à le gérer, alors qu'en réalité, pas forcément. Et d'autant plus, comme tu le dis, le froid nous montre aussi une façon différente de l'appréhender, qui n'est pas dans l'opposition, mais beaucoup plus dans l'acceptation, dans le fait de trouver du confort dans l'inconfort, et donc de pas rejeter la situation, mais plutôt de l'apprécier, de l'embrasser, de l'aimer. Et t'as réussi après à faire des parallèles dans ta vie de chef d'entreprise?
Il y a beaucoup de situations dans lesquelles on doit affronter une réunion compliquée, on doit affronter je sais pas, une fin de mois compliquée avec des objectifs à remplir ou des choses où il va y avoir de l'enjeu en fait, hein, sur des choix à faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaie d'arriver le plus possible relâché en fait sur ce genre de choses. En disant, il faut
Tu
être
fais un
dans la.
petit exercice de respiration avant, par exemple?
Oui, je fais beaucoup ça. Puis déjà conscientiser qu'on est là où je suis et redescendre. Ce que je dis toujours, c'est de redescendre dans ses pieds. C'est-à-dire qu'avec la respiration, pas que les choses tout restent dans la tête en train de tourner comme un petit hamster. Dès que le petit hamster s'emballe, c'est très très mauvais parce qu'il va de plus en plus vite. Donc c'est de redescendre de la tête plutôt dans les pieds avec de la respiration et d'avoir pleine conscience qu'on est là et déjà de faire cet effort de tout simplement de respirer. Et comme tu les connais, Leonardo, donc je pratique aussi les audios de Leonardo avec les exercices de respiration Wim Hof. Et ça, je le fais régulièrement. Et c'est vrai que c'est très entre la méditation et la respiration. Et ça permet aussi de vraiment se recentrer. Tu parlais d'alignement là au départ du podcast. Et c'est un moment en fait où on réaligne les choses et c'est vraiment ça fait aussi partie des routines. Donc je me suis fait mon petit mix de routines, comme tu le vois. Et le tout, c'est dans la régularité. Ça, je le vois. Faut faire un petit peu tous les jours, comme beaucoup de choses. Et ça apporte énormément de bien-être finalement.
Puis c'est aussi une forme de changement de paradigme en termes de mindset, parce que j'imagine que tu t'es construit avec l'idée qu'il fallait travailler 80 heures par semaine en te dédiant corps et âme à ton travail. Et aujourd'hui, tu prends conscience qu'en réalité, pour avoir un esprit clair et être capable de bien exercer ton rôle de chef d'entreprise, mais aussi d'être un homme épanoui, tu dois verser dans d'autres sphères, notamment personnelles. Tu l'as dit, le fait de prendre soin de ton corps, de faire du sport. De cette exposition au froid, la respiration, tout ça, c'est peut-être aussi une forme de nouveauté, non, dans ta relation à ton temps?
Oui, c'est une nouveauté. Puis souvent, on veut être exemplaire. On se dit l'exemplarité, c'est passer tant d'heures au bureau, etc., etc. C'est le rôle du chef d'entreprise, c'est d'être là sur les temps forts, d'être présent, de montrer le cap et d'entraîner tout le monde et de faire grandir ses équipes. Donc, si on est toujours épuisé, énervé après tout et que on est incapable d'avoir la bonne communication avec les équipes, on est finalement complètement improductif. Donc, l'idée, comme tu le dis, c'est de ménager du temps pour soi, pour être présent à l'autre quand il faut y être. Donc, il y a un équilibre à trouver, c'est vrai, dans tout ça. Donc, je bosse quasiment plus le. Ah, il y a peut-être eu une coupure.
Non, c'est bon.
Non, c'est bon, je ne te voyais plus. Je bosse quasiment plus le week-end. Avant, c'était un peu mon. C'était ce qui était fait régulièrement. Donc, depuis quelques mois maintenant, il y a eu. Tout ça, ça a beaucoup changé. Puis, j'ai une équipe de managers autour de moi. Tu parlais tout à l'heure du stage que j'ai fait avec le CODIR lors du stage Vimov. Donc, effectivement, j'avais amené les directeurs d'agence avec moi pour. Créer ce moment de cohésion et puis qu'eux-mêmes ils apprennent à avoir conscience justement de leur corps, de leur stress et qu'ils abordent des situations où ils sont dans leur poste de direction avec beaucoup plus de recul, de maturité, sans aller se cramer pour des choses des fois pas si graves que ça, donc et qu'ils arrivent à se concentrer sur des choses vraiment importantes, à prendre les bonnes décisions. On ne peut pas prendre des bonnes décisions si on est tout le temps épuisé, énervé, en rage auprès de la terre entière. Donc, c'est toujours l'image aussi du sportif, hein. Vous savez, un sportif, qu'est-ce qu'il fait? Il a des matchs à jouer. Entre les matchs, il y a des temps d'entraînement, mais il y a aussi des temps de récupération et de repos. Et si ces vrais temps de récupération, ils ne sont pas là, c'est mort. C'est mort. Donc, il faut que ça soit intense, repos, intense, repos. Ça sert à rien d'être capable d'être à 200 à l'heure par moment, mais d'être toujours à 120, ça n'a pas de sens. Il faut être capable aussi d'arrêter complètement et de faire des vrais arrêts, des vraies déconnexions. Si partir en vacances, c'est avec ses boîtes mail et puis passer 3 heures sur ses mails et puis 4 heures au téléphone. C'est pas partir en vacances. Moi, mon message d'absence, il est assez simple. Hein, c'est auprès de mes équipes, je mets en cas d'urgence, vous m'appelez sur mon portable. Et en fait, les gens s'aperçoivent qu'il y a très peu d'urgence. Hein. Je suis quasiment
Hey.
jamais appelé parce que avant d'appeler, ils vont se dire quand même, est-ce que ça. Ah oui, ben non, finalement, ça peut attendre. Ou alors on va m'appeler pour me dire qu'il y a un mail important à regarder, sinon j'ai stoppé les mails depuis quelques mois pour justement faire ces vraies coupures. C'est un vrai sujet les mails, enfin on va pas se lancer là-dessus peut-être, mais c'est la gestion des mails et du temps autour de ça, c'est quand même du lourd.
Non, mais clairement, c'est les mails, c'est un vrai sujet. Moi, pour être honnête, j'avais une réelle addiction aux mails et donc que j'ai essayé de soigner en me disant je vais les regarder que 2 fois par semaine, 2 après-midi par semaine. Bon, en réalité, j'ai pas tenu longtemps parce que c'était vraiment trop peu et je me laissais submerger. Mais par contre, j'ai quand même gardé l'habitude de ne les regarder que l'après-midi, donc jamais avant midi. Ce qui me permet le matin de travailler sur les choses qui sont vraiment importantes plutôt que sur les choses urgentes. Donc plutôt que d'être dans la réaction, d'être dans l'action. Et puis de dédier justement l'après-midi où j'ai généralement peut-être une intensité cognitive plus basse pour justement répondre à ces sollicitations. Et je trouve que ça marche bien et en même temps ça me libère aussi de la charge mentale, tu vois, de pas être confronté à tout plein de problèmes, de questions, etc. Dès le matin. Et j'ai eu un petit peu je suis tombé un peu dans le même écueil que toi vis-à-vis de l'exemplarité, en me disant qu'en tant que chef d'entreprise, je devais incarner ce que je demandais à mes collaborateurs et tomber dans l'excès de faire ça puissance 10, tu vois. Et donc, voilà, d'arriver avant tout le monde au bureau, d'être le dernier à partir, et puis à tout niveau, tu vois, d'être exemplaire vraiment à tout niveau. Et donc, je me mettais une pression de dingue. Et comme tu l'as très, très justement dit, en réalité, l'importance première de ma mission, c'est d'être là quand il faut prendre des décisions utiles, importantes, qui font sens et qui vont dessiner l'avenir de ma boîte. Et donc pour ça, il faut que je sois pleinement en capacité de mes moyens, pour pouvoir avoir la clarté d'esprit suffisante à ces moments qui sont stratégiques et déterminants. Et donc, ça nécessite que le reste de ma vie soit bien équilibré. Et comme tu l'as dit, c'est une homéostasie. Il y a des hauts, des bas, il y a le yin et le yang, comme dans le sport, comme dans tout. En réalité, dans la vie, dans les cycles, il y a des moments high, il y a des moments plutôt de relâchement, de détente. Et le secret, je pense, de l'efficacité entrepreneuriale, autant que de l'épanouissement personnel, vient dans la recherche de ce juste équilibre.
On est complètement en phase sur cette notion d'homéostasie. L'homéostasie, puis alignement, en fait, et d'être entre le cerveau, le cœur, et puis ce qui se passe dans le ventre, c'est d'avoir ce ressenti aussi émotionnel que les choses sont bien alignées, qu'il n'y a pas une chose de travers. Donc ça, c'est aussi un bon point de repère dans les décisions qu'on a à prendre. Savoir s'il n'y a pas un truc qui bug un petit peu. Donc, c'est une petite boussole intérieure qui est intéressante aussi.
Et justement, tu vois, sur cette question d'alignement, j'ai l'impression que d'une certaine manière, le cerveau, il est bien designé pour maximiser nos ressources, alors que le cœur est plutôt bien designé pour nous permettre d'atteindre plus de bonheur. Donc, ils ont parfois, les deux peuvent chercher le même objectif, mais parfois, ils sont opposés. Et donc, moi, souvent, j'ai laissé plutôt mon cerveau, mon cortex diriger, et puis en coupant complètement la connexion à mon cœur. Et puis, depuis 3-4 ans, notamment grâce à Limitless Project, j'ai rétabli cette connexion-là. Aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que je laisse mon cœur diriger et que mon cerveau est à son service. C'est-à-dire que mon cœur sait vers où je dois aller, il sait quel est mon alignement, et puis le cerveau, lui, est très, très bon pour déterminer des plans stratégiques, les prochaines étapes, les prochains pas au service du cœur. Est-ce que tu partages déjà cette vision, et est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours... Donc, pour rappel, je crois que tu as lancé Alticap il y a 30 ans tout seul, et aujourd'hui, c'est une PME qui emploie 150-160 personnes. Donc, grosse croissance. J'imagine que ton ambition et la façon justement de gérer cet alignement a évolué au fur et à mesure de ton histoire. Comment est-ce que tu qualifierais un petit peu justement cette croissance et son rapport avec l'alignement ?
Ben, je pense que quand j'ai créé il y a 30 ans mon activité, parce qu'aujourd'hui j'ai 60 ans, moi j'avais beaucoup envie de liberté déjà, d'être libre de faire ce que j'avais envie de faire. Donc j'étais consultant formateur sur les logiciels Sahari à l'époque, hein, qui étaient des logiciels de compta, de paye, de facturation. Donc c'est devenu aujourd'hui Sage, hein, qui est un éditeur qui est très connu. Et c'est vrai que j'avais envie de vivre quelque chose, de faire quelque chose de ma vie. J'ai perdu aussi ma mère à 27 ans, et je crois que ça a joué un rôle fondamental dans mon parcours. Il y a peut-être une rage, une revanche à prendre sur quelque chose. Donc ce mélange de cette expérience-là au moment de ma vie, et puis cette envie de liberté, ça m'a énormément encouragé à me lancer, à me dire on a une seule vie, et si on a envie de faire quelque chose, il faut se lancer. C'est le slogan de Nike, hein, c'est do it, fais-le, tout simplement. En France, on est beaucoup dans le avant de faire quelque chose, il faut que ça soit parfait. C'est le monde de Descartes, hein, il faut tout décrire. On est sur un monde d'ingénieurs. Et on est dans des fois de la surqualité avant de se lancer, alors que les anglo-saxons ne sont pas dans ce schéma-là. Et toute la démarche qualité aussi, parfois, qu'il peut y avoir, c'est on commence à faire quelque chose avec un résultat qui est bon à 60%, et puis on va l'améliorer au fur et à mesure du temps. Mais tout ça, ce n'est pas forcément du tout la culture française. Donc, je me suis lancé avec ce projet d'être consultant freelance, et puis ça a bien fonctionné, ça s'est très bien développé. Je me suis lancé en 93, en 99 j'avais 150 clients, je vivais, alors je travaillais énormément par contre, je pense que j'ai jamais autant travaillé qu'à ce moment-là, puisque j'avais un numéro de portable et les gens m'appelaient, c'était open 24-24 quasiment. Et donc, il y a eu ce cap de l'an 2000 où il fallait faire des choix. Il y avait l'an 2000 qui arrivait, l'euro derrière. Et puis le partenaire principal qui était Sage encourageait les revendeurs à se regrouper, à se structurer avec des politiques d'agrément de plus en plus contraignantes, avec des niveaux de chiffre d'affaires. Et donc Alticap s'est créé à ce moment-là avec deux autres associés. Donc on est parti de cette idée assez simple de faire de la qualité auprès de nos clients, de travailler sur le long terme, de pas être des vendeurs de boîtes, en opposition à certaines boîtes d'informatique qui poussent des boîtes et puis qui n'apportaient pas beaucoup de services. Donc on a toujours dès le départ insisté sur le service. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais plutôt dans le truc, l'euphorie du trentenaire qui se lance, jeune papa, et tout ça a duré un bon paquet d'années. Et puis l'entreprise a grossi, comme tu le disais, s'est structurée. Aujourd'hui, on est même 160, 175. On est sur une dizaine de villes sur le territoire national, dont la plus loin est à Perpignan. On est aussi à Annecy, on est sur le Grand Ouest. Donc il y a eu plusieurs phases après dans ce cheminement. Je me suis réintéressé au début des années, vers 2000, 2007-2008, à tout ce qui était management. Tu vois, la boîte, j'avais créé en 93, il a commencé à avoir des salariés en 99-2000. Donc je me suis réintéressé à ces sujets-là parce que je voyais bien qu'il y avait un sujet, au-delà de ma belle énergie pour entraîner tout le monde. Quand on arrive à une boîte de même d'une quinzaine de personnes, il commence à y avoir des sujets autour de ça. Et après, j'ai commencé à faire des formations. Je me suis intéressé à mon développement, à tout ce qui était des formations plutôt sur le développement personnel, comment motiver les gens, comment gérer son temps, son stress, comment gérer les conflits. Enfin, j'ai fait tout ça à l'époque et ça m'a ouvert aussi sur des choses sur lesquelles j'étais pas forcément ouverte. Et c'est vrai qu'au début des années 2010, 2012, 2013, on a commencé à faire. L'entreprise a grossi, on a fait beaucoup plus de formations. Et tout ça, ça n'a fait que s'accélérer. Après, il y a eu ce qui s'est passé en 2021 où j'avais conscience de choses. Me dire, bon, il faut faire attention à soi, mais je le regardais plutôt dans les bouquins. Et finalement, j'avais des bonnes résolutions qui duraient pas très longtemps, jusqu'à ce que je voie passer de près le fait de. J'ai pas fait vraiment un. Enfin, j'étais épuisé. Mon cerveau est resté là. Je prétends pas avoir fait un burn-out parce que les gens emploient ce mot-là vraiment beaucoup. J'ai pas été. Je suis resté à la tête de l'entreprise, mais mon corps était tout simplement épuisé. Il me portait plus. C'est-à-dire que faire 50 mètres dans mon jardin, c'était compliqué. Et puis le cœur, les acouphènes, enfin tout ce que je t'ai expliqué était là. Donc c'est vrai, quand il se passe ça, après, on change son mode de vie. Mais l'être humain est fait comme ça. Je crois qu'il faut avoir le nez dans le mur pour vraiment changer quelque chose. Il faut l'expérimenter. Faut le vivre. Et là, il y a un gros déclic. Sinon, il n'y a pas véritablement de déclic. Donc le gros changement par rapport à avant, oui, c'est la reprise de conscience de son corps physique, d'avoir cette conscience-là, qu'on est présent à soi, cette vision toujours de prendre du recul. Et ça passe par le corps. Donc, parce que le mental, on connaît ça depuis longtemps. Donc, c'est lui qui va nous raccrocher. Et puis sur certaines choses, on parlait du cerveau, on parlait du cœur, mais il y a le ventre aussi. On dit souvent que le ventre, c'est le deuxième cerveau. Mais il dit beaucoup de choses, le ventre, sur l'alignement qu'on peut avoir avec nous-mêmes et avec nos propres émotions. Donc C'est véritablement ça qui a changé. Je fais aussi partie de l'APM depuis, j'en ai parlé un petit peu depuis maintenant 7 ou 8 ans. Ça m'a beaucoup enrichi ce parcours avec d'autres chefs d'entreprise et puis avec justement des experts très, très enrichissants sur tout ce qui est développement personnel. Donc ça nous ouvre et on s'aperçoit que nous, chefs d'entreprise, plus on s'ouvre, plus on se remet en question. Bah finalement, plus on va aider nos équipes à grandir. Si on reste fermé sur nous-mêmes, sur les mêmes certitudes et sur les mêmes schémas, on est le principal frein au développement, à mon avis, de nos entreprises. Parce qu'on va vouloir, l'ego est là, on va vouloir tout contrôler, on va vouloir tout maîtriser. Mais non. Le truc, c'est de s'effacer peu à peu, de faire grandir les autres. Quand il y a des moments charnières, des moments importants, des moments clés, bon, bah, il faut être, bien entendu, il faut être très présent, il faut montrer qu'on est là, à la barre. Mais sinon, il faut laisser, notre rôle, c'est de créer la bonne énergie, de créer la bonne émulation entre les équipes pour que ça fonctionne. Moi, mon parcours, je l'ai fait maintenant. Enfin, je l'ai fait, j'ai pu, oui, Eric Le Goff aussi, bon. Oui, mais l'enjeu maintenant, ça sera un enjeu pour moi de que l'entreprise perdure, qu'elle soit transmise. Après un parcours où je me suis il y a eu des moments difficiles, mais je me suis énormément amusé. Souvent, on oublie la notion de plaisir dans l'entreprise. C'est pas un mot qu'on emploie souvent. Plaisir, amour. Quand on est dans du sport, il y a l'amour du maillot. On dit jamais les collaborateurs ou très rarement ou l'amour de l'entreprise. C'est un mot qui est banni, mais tu as parlé de cœur tout à l'heure. Je crois que c'est des éléments essentiels. Donc, parler de plaisir déjà quand on bosse ensemble, créer un climat où les gens se font plaisir en travaillant, à mon avis, c'est aussi une des premières missions du chef d'entreprise. C'est pas toujours facile, hein. Il y a un contexte économique qui est là, il y a des relations des fois au travail qui sont compliquées, il y a un climat de plus en plus fou autour de nous, ça c'est certain. Maintenant, les chefs d'entreprise ont un rôle vraiment important autour de ça, à mon avis.
Complètement. Je partage totalement cette vision, notamment cette vision très organique de l'entreprise, où chaque partie, en réalité, participe à sa réussite, à la réussite d'un projet commun qui dépasse chacun de ses constituants, et la nécessité pour le chef d'entreprise d'être plutôt le terreau nécessaire à l'émergence de toutes ces parties, plutôt que la tête directrice qui tire tout le monde et puis qui règne du haut de sa pyramide. Mais pour autant, tu vois, tu parles de la notion d'ego. Et puis de cet alignement du cœur, etc. Et je me dis, je sais pas si c'est une condition sine qua non pour réussir, mais en tout cas, il y a quand même un moment où tu dois incarner ta boîte, où tu dois montrer toute ta confiance, toute ta détermination, notamment pour trouver des partenaires bancaires, pour trouver des clients, pour embarquer des gens autour de toi. Et donc, tout ça nécessite d'une certaine manière de l'ego, et puis peut-être aussi de cacher un petit peu tes vulnérabilités. Tu dois te montrer fort pour donner confiance. Et après, je pense que le risque est assez grand de se construire une armure de fer blanc, derrière laquelle on se protège et qu'on aura du mal à laisser tomber. Toi, tu as réussi à le faire, par justement cette redécouverte de ton corps quelque part, de ton cœur, mais aussi de ton estomac, de tes intestins, comme tu l'as dit. Comment est-ce que ça a fait évoluer ton leadership, ta façon d'incarner le leadership dans ta boîte?
Je pense que dès le départ, moi, j'étais quelqu'un d'assez humble. Donc ça, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'humilité du dirigeant, mais je pense que ça a fait son succès. Ça m'a pas empêché d'être très déterminé, très persévérant, de faire beaucoup de choses. Donc je crois que dès le départ, j'ai été comme ça. Donc, tu parlais des partenaires qu'il y a autour de nous. Donc, moi, l'écriture du projet Alticap, elle a toujours été claire dans ma tête. Donc, quand les choses sont claires et puis qu'on annonce des choses et puis qu'elles se réalisent, et puis que l'histoire fait que l'entreprise se développe, on ouvre des agences, on rachète des boîtes, voilà. Donc, je pense que tout ça a donné une assurance qui était déjà là. sans forcément claironner tout le temps. Je suis pas quelqu'un de très paillette, hein, j'ai pas besoin de ça en fait. Mais cette assurance-là, cette façon, cette posture-là aussi, elle rassure beaucoup de monde. Et puis aujourd'hui, elle est plutôt très très à la mode, hein,
Bien sûr.
quand on voit tout ce qui se passe, hein, toute la littérature qu'il peut y avoir autour de la RSE, autour de la posture du dirigeant, autour des générations Z qui arrivent et puis de la posture du dirigeant par rapport à ces jeunes générations. Tout ça a beaucoup évolué. Donc, ce qui est arrivé les dernières années n'ont fait que renforcer ça. Finalement, je me suis dit finalement, aujourd'hui, mon rôle, c'est vraiment de faire grandir les équipes. Et puis, c'est ça, de faire évoluer les gens, qu'ils soient bien dans leur job, que les managers soient bien à leur place. Et puis l'ego, l'image de soi qu'on veut renvoyer aux autres, on en a toujours, mais à un moment, c'est d'avoir un petit peu de recul avec ça et de se dire finalement que les plus beaux compliments que fait un collaborateur, c'est quand il vient te voir, il te dit, là, Eric, ce que tu as fait pour moi, ça m'a fait grandir et j'ai appris. J'ai appris, et ça, c'est un très beau compliment. Donc, chacun a sa manière d'apprécier les choses, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'apporte le plus, c'est ce qui me paraît le plus important. Et puis, c'est ce qui crée la cohésion dans une entreprise, c'est ce qui fait que les gens vont avoir envie de travailler ensemble. Donc, le rôle du chef d'entreprise, il est essentiellement là. Mais là-dessus, j'ai pas vraiment changé ma nature, hein. Je crois que dès le départ, j'étais comme ça. C'est une mentalité. On dit ce qu'on va faire, on dit ce qu'on va faire, on fait ce qu'on a dit. C'est très bête, hein, la formule. Mais donc, il n'y a pas besoin de la ramener et de faire. Donc souvent, j'ai dit aux gens, j'ai dit des fois 7 ans avant, j'ai dit en 2015, j'ai dit aux gens en 2022, on fera 22 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'avais annoncé des chiffres comme ça, et sur des grands cycles. Et le fait de faire ça, ben, ça apporte aussi de la légitimité dans ce qu'on fait, de la confiance des équipes et des collaborateurs. Donc,
Et puis en annonçant les choses comme ça, tu brûles un petit peu les ponts derrière toi. Et donc tu t'engages aussi, quelque part, tu t'engages toi, tu engages ton corps, tu engages tes cellules, tu engages les gens autour de toi, tu engages tes partenaires à réussir à atteindre ce que tu as projeté. Et on en revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure lorsque tu parlais, tu différenciais le mindset français de celui anglo-saxon. Le français est souvent en train de réfléchir en vase clos dans sa tête avant de se mettre à l'action. Et alors que justement, prendre la décision d'agir, c'est peut-être la chose la plus difficile. Et le reste, entre guillemets, le chemin est autoréalisateur d'une certaine manière et sa propre récompense. Donc peut-être qu'on pourrait un peu moins réfléchir lorsque justement écouter plus notre intuition lorsque quelque chose nous parle à l'intérieur de nous, y aller, s'engager, et puis ensuite construire le plan. Tu vois, laisser d'abord le cœur diriger, puis le cerveau qui vient ensuite en renfort pour dessiner les pas, comme je disais précédemment. Et tu sais, tu disais que l'une des plus belles gratifications que tu avais dans ton travail, c'était quand un de tes collaborateurs vient te voir et puis te dit « Eric, merci de ce que tu as fait pour moi ». Et ça me ramène un petit peu aux différents niveaux de sens. En fait, on peut déterminer 4 niveaux de sens. Le sens hédoniste, qui consiste dans le fait de s'acheter des choses, une nouvelle voiture, etc., de manger du chocolat, donc les plaisirs simples et immédiats, qui te donnent de gros shoots de dopamine, mais qui durent vraiment pas longtemps dans le temps. Le sens personnel, qui est plutôt lié justement au fait de faire du sport, de la croissance personnelle, de lire des choses, d'apprendre, d'évoluer, de progresser personnellement. Là déjà, tu vois, les shoots sont un petit peu moins importants, mais durent beaucoup plus longtemps. Et ensuite, tu as le sens altruiste, qui est le fait de contribuer à quelque chose avec d'autres personnes, d'aider les autres de façon gratuite et désintéressée, qui Encore une fois, des fluctuations encore un petit peu moins importantes, mais beaucoup plus longues. Et enfin, tu as le sens transcendantal, qui est le fait d'avoir la sensation de travailler pour quelque chose qui te dépasse en tant que personne. Et donc là, ça monte encore moins haut, mais c'est très, très long en termes de satisfaction, de durée de satisfaction. Ça peut même durer toute une vie. Et probablement que c'est ton cas avec après 30 ans chez Alticap. Et peut-être que c'était peut-être pas ton cas, mais j'ai l'impression que dans la façon dont se dessine une réussite entrepreneuriale, au début, tu es peut-être plutôt sur du sens hédoniste et personnel, tu vois, des choses très intrinsèquement liées à toi, au fait de maximiser tes ressources, de gagner plus de clients, de gagner plus d'argent, d'avoir plus de croissance. Et puis, lorsque tu passes ces strates-là, j'ai l'impression que le curseur se déplace beaucoup plus vers le sens altruiste et le sens transcendantal. Comment est-ce que je rends le monde meilleur? Comment est-ce que j'embarque les gens autour de moi et je les aide à s'épanouir en tant que personne et de façon individuelle? Tu partages un petit peu cette évolution?
Bah, complètement. Je pense qu'au début de ma carrière, j'avais beaucoup de plaisir à m'acheter une grosse voiture, par exemple. C'était le signe du patron de la boîte qui marchait bien et d'avoir le véhicule qui allait bien. Aujourd'hui, ça, j'en ai rien à faire, en fait, pour rester à peu près poli. Et comme tu le dis, une vie, c'est une trajectoire. Donc, c'est de se réaliser. Tu connais la pyramide de Maslow avec les différents étages. Donc, plus on avance aussi dans la vie, plus on voit ce qui est vraiment important. Qu'est-ce qu'on va transmettre? Qu'est-ce qu'on va laisser aux autres? Et puis, c'est les relations avec les autres qui apportent quelque chose. On n'est pas un ermite. Dans notre coin. Donc, je pense que, oui, aujourd'hui, je suis beaucoup plus préoccupé par l'avenir de l'entreprise et à lui assurer un avenir au-delà de ma propre petite personne et de se dire que quelque part, l'aventure Alticap, je parle souvent de l'aventure Alticap. C'était avec les deux associés que j'ai eus, les gens qui étaient là au départ et cette croyance qu'en en voulant quelque chose, on va construire quelque chose de plus grand que nous, qui va nous dépasser. Hein, c'est le 1 plus 1 égale 3. Donc, bien évidemment, je suis complètement en phase avec ça. Et avec cette idée que l'entreprise, elle est avant tout humaine. C'est les relations humaines qui sont à l'intérieur qui vont faire qu'elle va fonctionner. Même si après, il faut des produits, il faut des services, il faut du marketing, il faut du commerce, il faut tout ce qui va bien. Mais si ce socle-là, il n'est pas là, il n'est pas construit, à mon avis, l'entreprise, elle marche moins bien, déjà. Il y a moins d'aboutissements pour tout le monde. Et puis moi, en tant que chef d'entreprise, c'est vraiment cette idée de construire quelque chose qui va au-delà de sa propre personne. Et c'est une satisfaction intellectuel, enfin, qui va au-delà de ça, c'est un bien-être quand on fait ça. On est aligné en fait, tout simplement. C'est pas je vais m'acheter, tiens oui, si je fais ça, je vais m'acheter telle chose. Je pense que si j'avais été plus hédoniste, je serais beaucoup plus riche à titre personnel aujourd'hui que je ne suis, parce que j'ai toujours beaucoup pris de risques et beaucoup réinvesti dans l'entreprise. Et j'ai aucun regret là-dessus. Mais je rejoins complètement.
Et pour autant, c'est peut-être quelque. Ouais, pour autant, c'est peut-être quelque chose qu'il faut explorer. Tu vois, peut-être qu'il faut s'acheter une belle voiture pour s'apercevoir qu'après 3 mois, en réalité, elle nous satisfait pas tant que ça et que c'est pas ça qui est le facteur principal d'épanouissement dans notre vie. Et tu parlais de trajectoire. J'ai la sensation qu'il y a quand même des grandes étapes dans la vie. Tu vois, je dis souvent que les enfants, c'est des éponges. Ils prennent comme modèle tous les gens autour d'eux. Puis après, vers l'adolescence, le début de l'âge adulte, tu multiplies les expériences parce que tu sais pas trop qui tu es et t'as envie de savoir lequel des masques que tu as eu comme exemple tu vas vouloir garder. Vers 30 ans, tu sais un petit peu plus ce vers quoi tu veux tendre. Et puis, comment est-ce que toi, si tu devais donner des noms aux grands chapitres de ta vie ou de la vie de façon générale, comment est-ce que tu la vois s'articuler de l'enfance jusqu'à la mort?
L'enfance, c'était joyeux. Joyeux, chaleureux, les copains, beaucoup d'activités, le foot, le sport, l'école de musique, enfin... Je pense que je m'ennuyais très vite aussi sur un tas de choses, donc je faisais un tas de trucs. Donc pour moi, c'est joyeux l'enfance. Après la phase de du lycée, etc. Pour moi, c'était, je savais vraiment pas faire ce que j'allais faire dans la vie. Je savais pas. J'avais pas d'idée. J'étais pas, il y avait pas grand-chose qui m'intéressait, par écouter de la musique. Et puis après, je suis rentré à la fac. Et là, les choses se sont éclaircies. Je me suis intéressé à la gestion d'entreprise. Je trouvais ça intéressant. Donc ça, c'est plutôt une phase où on construit un projet de vie, on rencontre sa femme, on va faire des enfants un petit peu après, là, quand j'ai commencé à travailler. Donc c'est une phase où si je devais donner un mot, j'ai dit joyeux. Après, c'est construction, mais dans un certain conformisme finalement. On reproduit ce qu'on a connu, hein, des schémas que on connaît bien, et puis on fait des choses pour les autres aussi, au sens pour faire plaisir à ses parents, pour faire plaisir. Enfin, on reproduit des schémas finalement. Et puis c'est vrai que ça dure un bon petit moment, surtout quand tout est aligné, tout marche, et puis tout est trop parfait. Et moi, je pense qu'à 50 ans, tout était trop parfait, en fait. Il se passait plus grand-chose à tous les niveaux. Et à un moment donné, on cherche autre chose. On cherche autre chose. Et puis, je pense que c'était de partir à la découverte de soi-même, tout simplement, à partir de la cinquantaine, de vraiment qui on est. Donc, je dirais joyeux. Construction, et puis construction vers les autres aussi. Et puis après, c'est plutôt la découverte de soi-même pour que tout ça soit cohérent aussi entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense. Et puis, comme tu disais, essayer d'avoir ce sentiment qu'on fait quelque chose qui va nous dépasser finalement, qui va au-delà de soi. Et quand on a cette perception-là, on est tout à coup, on est très calme. On n'a pas besoin de s'énerver sur un tas de choses.
Ouais, bah, tu différencies ce qui est important de ce qui est urgent en réalité. On en revient à ce qu'on
Ouais.
disait un petit peu plus tôt sur le sujet. Et ce qui est assez drôle, c'est que tu vois, tu disais que pour toi, l'enfance, c'était joyeux. Il y a cette notion de plaisir. J'ai cru comprendre que vers 30 ans, quand tu t'es lancé et les années qui ont suivi, tu as énormément travaillé. Donc peut-être qu'on était plutôt sur un qualificatif de sérieux.
Ouais,
Et
c'est vrai.
maintenant, à 60 ans, on dirait que tu retrouves cette âme d'enfant. Tu disais que tu cherchais du plaisir, du jeu dans ton entreprise, dans ta vie. Comment est-ce que ça se traduit? Comment est-ce que tu... Déjà, comment est-ce que tu as pris conscience que la vie était peut-être moins sérieuse que ce que tu imaginais, qu'on avait la chance d'être incarné dans un corps pour jouer au grand jeu de la vie et que ça valait le coup de vraiment y jouer? Et comment est-ce que ça se traduit par des actes dans ton quotidien et dans ceux de tes collaborateurs?
Mais c'est vrai que la soixantaine, il y a ce côté espiègle qui revient. En fait, l'expérience de la vie fait qu'on prend les choses avec beaucoup plus de recul. Te donner un exemple très, très précis comme ça, je retrouve des plaisirs de faire du sport, de faire des trucs un peu marrants. Mais avec une insouciance. En fait, on retrouve une certaine insouciance. Parce qu'on se dit finalement que l'horizon devant nous, on a construit les choses, beaucoup de choses ont été construites. J'ai eu deux grands enfants qui travaillent avec moi. Enfin, on a accompli énormément de choses. Et donc là, on se dit maintenant, c'est ce qui reste, c'est du pur plaisir. Il faut que ce soit ça. Et on a déjà fait beaucoup de choses. Donc, pour les collaborateurs, là, on a l'immeuble qu'on a fait, là, il est vraiment très agréable. C'est un immeuble RSE. On a fait vraiment des espaces très, très conviviaux à l'intérieur. On essaie que ça soit vraiment très, très sympa pour y vivre. Après, on a une plateforme aussi qui s'appelle TeamViewer en interne, qui permet aux collaborateurs de monter des projets ensemble. Donc, c'est l'entreprise qui donne une somme d'argent. Et puis là, c'est les collaborateurs qui vont dire, tiens, on va faire des cours de cuisine, On va faire une course à pied, on va faire. C'est l'entreprise qui permet de financer tout ça. On va faire faire venir quelqu'un qui va faire des massages du cou, donc des trapèzes ou du dos. Donc on fait beaucoup de choses de ce type-là. En tout cas, on a ouvert la possibilité aux gens de le faire. Mais c'est vrai que cette phase-là, j'en discutais avec des amis l'autre jour, là, cette phase d'avoir 60 ans, il y a ce côté, c'est j'ai 20 ans. C'était marrant dans la discussion, mais c'est ce qui ressortait. Oui. En fait, on a envie de se faire des petits week-ends, des trucs, des machins, penser à ses vacances, donc voir les copains, donc profiter vraiment de ça et des gens qui sont autour de nous et pas forcément être toujours les 7 jours de la semaine sur le travail et puis pas partir en vacances ou très peu, pas déconnecter. Là, je repars en vacances en Crète pour tout dire le 18 octobre pendant une semaine. Donc voilà, je fais ce genre de petites choses sympas. Donc faut privilégier tout ça, à mon avis. Et pas remettre à demain. On va avoir une dure vie de labeur, on remet toujours à demain. Et puis hélas, moi j'ai vu des gens autour de moi, à peine à la retraite, ils ont eu une grave maladie, hélas ils sont décédés, donc il ne faut pas remettre à demain. Faut prendre les choses quand elles sont là, quand elles sont dans le présent, et en avoir pleine conscience. Il y a des choses, non, il ne faut pas les remettre à demain. Pourquoi les remettre à demain? Donc, t'as envie de descendre au Pays Basque dans une semaine ou faire je sais quoi, rencontrer des amis ou autre. Bah, il faut juste s'organiser et puis profiter de ces moments-là. Donc, et pas tout faire forcément pour des choses matérielles. Et surtout, c'est ce qu'on disait au début du podcast, avoir toutes ces routines de physique autour du corps pour rester connecté. C'est super important de rester connecté à soi, à la terre, aux autres, et pas être dans cette espèce de truc complètement virtuel où on prend toujours plein de flèches, on est sur ses mails, on est dans la surréaction de beaucoup de choses, mais on surréagit à tout, il n'y a plus d'échelle dans ce qui est important et ce qui n'est pas important. Donc, à mon avis, c'est des éléments très très importants, oui.
Complètement, tu prêches un convaincu. La première chose que je fais le matin, c'est toujours une petite routine de mobilité qui dure entre 5 et 15 minutes selon le temps que j'ai à dispo. Et ça me permet vraiment, d'une part, de me réveiller, mais aussi de me connecter au corps, de me connecter à des choses tangibles, tu vois, à mes sensations internes. Et franchement, c'est outre le fait d'avoir des avantages en termes de mobilité, de réduction des raideurs, des douleurs de dos que je pouvais avoir, etc. C'est vraiment une façon de me sentir conscient et présent pour ma journée, là où par le passé, j'ai pu les traverser parfois sans même les voir passer. Je trouve que cette notion d'insouciance, elle est vachement intéressante et j'aimerais revenir sur deux, trois points, notamment le fait que tu dis il faut pas remettre les choses à demain. Est-ce que tu penses que. Parce que là, tu la vis aujourd'hui, cette insouciance. T'as remis aujourd'hui de la joie et du plaisir, de l'amusement dans ta vie. Est-ce que tu penses que t'aurais pu avoir cette compréhension à 30 ans et vivre déjà cet équilibre à ce moment-là? Ou est-ce que tu penses que ça aurait été incompatible avec ta réussite? En gros, est-ce qu'il faut se sacrifier pour réussir? Selon toi? Pas
Ouais,
facile,
pas
hein?
facile ta question là. Je pense qu'il y a un moment, quand on lance une entreprise, il y a énormément de temps à y passer. Parce que bah, on est seul au départ, j'étais seul. Donc on fait tout, quoi. Il faut aller à la poste, faut faire ses factures. Il y a quand même une partie de sacrifice mais qu'on ne vit pas comme un sacrifice, parce qu'on est dans son projet. On est
Oui, tout à
complètement
fait.
emporté par son projet, mais c'est quand même des sacrifices sur la vie de famille, sur du temps qu'on passe avec ses enfants, sur beaucoup de choses. Et l'entreprise, elle est au cœur de la vie de la famille. J'ai des grands-enfants, on en parle encore assez souvent, mais l'entreprise a été le cinquième membre de la famille. Donc je pense qu'il y a Quelque part, oui, je pense qu'il y a une espèce de sacrifice. On met beaucoup sur sa vie professionnelle. C'est une fois que à mon avis, c'est une fois que l'entreprise a grossi, qu'elle s'organise, qu'il y a un management qui est constitué, là où le dirigeant, il peut s'occuper. Le rôle du dirigeant, finalement, ça serait de s'occuper plutôt des actionnaires de l'entreprise. Je vais peut-être te choquer, mais quelque part, s'occuper des clients, des fournisseurs, des salariés, il devrait y avoir des gens autour de lui pour faire ça. Le dirigeant, il devrait s'occuper des actionnaires au sens qu'est-ce qui va faire que l'entreprise va perdurer, qu'elle va être aussi va être financée, va avoir la bonne structure juridique et on est sûr que dans le modèle qui va être constitué, eh bien, il y aura toujours les dirigeants qu'il y aura tout en haut vont faire perdurer la culture et faire perdurer l'entreprise avec ses valeurs. Donc, le rôle du dirigeant, c'est d'incarner tout ça, d'incarner cette vision, ces valeurs. Et puis après, au niveau opérationnel, une fois que l'entreprise est un petit peu plus grande, il y a toutes ces personnes dont je parlais tout à l'heure auxquelles il faut faire confiance et que c'est elles qui vont au quotidien faire en sorte que ça se passe bien dans l'entreprise. Et après, effectivement, en termes de temps à passer, quand l'entreprise est plus grande et que tout roule, il y a sans doute moins de sacrifices en termes de temps, on organise mieux son temps, puis on a appris aussi à l'organiser. En faisant ce tri avec, tu parlais de, voilà, tout le monde connaît la matrice d'Eisenhower, mais voilà, d'être sur l'important non urgent, d'avoir conscience qu'en tant que chef d'entreprise, on doit être dans cette case-là, et puis le reste, faut que ça soit délégué. Donc, mais je pense qu'au départ, oui, pour toi, c'est peut-être, je pense qu'il y a une notion, oui, de sacrifice au départ. Ça me paraît difficile, sauf avoir un super produit, d'être la super start-up, et puis du jour au lendemain, t'appuies sur un bouton parce que tu as investi sur l'IA et tout tombe du ciel, tu revends ta boîte des millions d'euros un an après. Mais bon, ça arrive pas forcément très souvent.
Non, ça c'est plus la loterie. Après, enfin, quand tu parles de sacrifice, moi j'entends plutôt passion dévorante que sacrifice, puisque le fait d'entreprendre aussi, d'être habité par ton projet, ça nourrit aussi une forme d'énergie, de flamme intérieure qui te transcende. Et d'ailleurs, ta vie, et tu l'as dit, c'est presque un cinquième membre de ma famille, ta vie est intrinsèquement entremêlée avec ton entreprise. Et tu vois, il y a des moments peut-être où t'es pas en train de travailler, mais où ton cerveau est en train de trouver des solutions aux problèmes de ta boîte. Et inversement, et donc tout se nourrit et s'auto-nourrit. Et les deux sont quand même, me semblent quand même vachement, vachement, vachement liés. Et dans cette insouciance, j'ai entendu aussi que c'était lié au fait que, d'une certaine façon, tu avais réussi. La boîte, elle a grossi, elle a une certaine taille, etc. Et donc, tu peux être fier du chemin parcouru, du chemin accompli. Est-ce que c'est pas aussi le fait d'avoir traversé beaucoup de tempêtes, qui te permet de les relativiser et de savoir qu'en réalité, tout ce que tu pensais être tout à l'heure, tu vois, tu parlais du cerveau qui est toujours en train de faire des prédictions, etc. Et puis qui parfois se fait une montagne de choses qui sont finalement pas si graves. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. À la base, ça répondait à des objectifs de survie parce que le fait de mieux anticiper les dangers et les menaces de notre environnement permettait de survivre plus longtemps, tout simplement, dans des environnements hostiles. Mais aujourd'hui, c'est le lot de tous les humains que de s'en faire pour des choses complètement imaginaires. Est-ce que tu as la sensation que justement le fait d'avoir été confronté à des choses difficiles dans ta vie, d'ailleurs, on pourrait faire un parallèle avec le froid qui est une forme d'école de la gestion de la difficulté, te donne aujourd'hui des formes de croyances ressources qui te feraient dire que finalement rien n'est aussi grave que ce que tu le crois et que tu arriveras toujours à trouver les ressources pour t'adapter et trouver des bonnes solutions.
Ouais, je pense que j'ai cette intime conviction parce que, enfin, de fait que de toute façon on va trouver des solutions. Et puis comme tu le disais, on parlait de sacrifices sur la vie perso, etc. Mais moi je l'ai pas forcément vécu. J'étais dans cette aventure qui m'a construit, qui m'a nourri. Donc c'était Je vais pas dire que c'est une drogue, mais c'est un petit peu ça. Hein. Quand ça se développe bien, que tu sens, c'est comme du surf. Hein. Le vent sont favorables, tu te fais plaisir. Enfin, y a pas de. Mais tu es sur la mer, tu n'es pas avec ta famille qui est sur le bord de la plage. Donc, c'est dans ce sens-là que je disais sacrifice, effectivement. Et puis après, les différentes phases qu'a traversé l'entreprise, que j'ai traversé à titre perso, bah ça te construit. C'est comme un marin qui a franchi plusieurs fois le Cap Horn. Bon, bah, tu sais que ça pique. Si tu dois le refranchir, tu te dis oui, ça va sans doute repiquer. Mais je pense que tu le fais différemment. Tu le fais différemment parce que tu t'en fais moins. Et surtout, tu te dis, il va falloir que je sois présent au bon moment. Ça ne sert à rien de brûler du gaz avant. Il faut se préparer à être présent au bon moment. Donc. Et donc c'est avec les routines, en prenant soin de soi, en étant présent à soi. On parlait des décisions tout à l'heure, se dire au moment où ça va être chaud, ok, ça va être chaud, mais j'ai des ressources. C'est quoi les ressources que j'ai moi en interne? C'est quoi les ressources autour de moi? C'est quoi les solutions? Et puis de bâtir quelque chose qui va permettre de franchir un cap qui peut être difficile. Mais comme tu disais, oui, c'est le. Et finalement, qu'est-ce qui est si grave dans tout ça? Enfin, tu vois, c'est. Au bout d'un moment, c'est de se dire, ouais, j'ai vécu des choses passionnantes, j'ai une vie avec plein de choses qui m'ont énormément apporté. Donc, voilà, après. Il y a la volonté de transmettre, d'avoir construit quelque chose qui était beau, qui va au-delà de soi, mais voilà, je pense que il n'y a pas de. C'est pour ça que les craintes, elles sont. Je peux avoir des peurs. On a toujours peur des choses, de certaines choses, mais souvent, c'est. Elles sont assez vite. C'est tout bête, mais on dit la peur n'évite pas le danger. Hein. L'expression, elle est un peu con, mais elle veut dire ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que de toute façon, il va falloir être présent dans les situations qu'il faut gérer. Donc, et il va falloir être bon à ce moment-là. Donc, non, pas de.
Et justement, tu vois, la peur n'arrête pas le danger, c'est clair, et en même temps, on la ressent quand même dans ces moments où ça a été chaud, dans ces moments où tu as eu peur, dans ces moments où parfois peut-être tu t'es senti submergé. Comment est-ce que tu es arrivé à faire face plutôt, est-ce que tu avais des routines ou des habitudes qui te permettaient de retrouver du calme, de la clarté pour justement être présent?
Ben,
Ou bien tu manageais ça à vue et puis tu faisais le dos rond et.
non, ben, je pense que moi j'aime bien le contact aussi avec la nature. Donc le fait de se faire des choses assez simples, j'ai fait pas mal de trek, hein, la rando, des treks. Je suis allé dans des pays sympas, le Népal, etc. Donc tout ça permet de vraiment de se ressourcer, de faire des belles coupures. Et quand je fais ça, je me ressource véritablement. La montagne, la mer, plus la montagne, mais c'est des choses qui font que on reprend de l'énergie, on se reconnecte à soi. Et ça, j'ai commencé à le faire il y a déjà maintenant une quinzaine d'années. Donc oui, j'avais 45 ans à peu près. Puis au début, c'était des choses assez simples, c'était se retrouver en famille, voir des amis, partir en vacances, privilégier des temps de vacances dans des endroits très sympas, c'est certain. Mais pas forcément. J'ai arrêté le sport. J'ai arrêté le sport, j'avais 25 ans en fait. Je faisais du foot, du tennis, un tas de choses. Après, j'ai un peu tout laissé tomber. Et je refais beaucoup plus de sport maintenant. Comme quand j'étais jeune, finalement. Donc c'est trouver ses propres moments de ressourcement, mais maintenant, ça va être mes routines, hein, tout simplement. Hein. C'est marcher, c'est faire toutes les routines que je t'expliquais. De temps en temps, me payer un beau trek dans un pays lointain, au Pérou, au Népal, c'est profiter de tout ça. Et ça, c'est des vrais bons moments. Faire le stage Wim Hof avec Leonardo, avec mon équipe, même si tu n'étais pas dans le domaine privé, c'était un vrai bon moment avec l'équipe. C'est de bâtir ce genre de choses autour de team building au sein de l'entreprise aussi qui vient forger des choses très, très fortes entre les gens. Quand on vit le froid ensemble, on vit une épreuve comme ça, ça rapproche les gens. Puis on parlait de l'ego tout à l'heure, là tout le monde est dans sa petite peur ou sa petite appréhension vis-à-vis du froid. On est tous un peu sur un pied d'égalité. Donc, non, je.
Oui, j'imagine, ça devait être ouais, super de partager ça avec Leonardo. En plus, outre l'exposition au froid, même la respiration Wim Hof, ces breathwork où tu es un peu en hyperventilation, ça te permet aussi de modifier la chimie de ton cerveau et d'atteindre peut-être des états de vulnérabilité. Je dis pas ça dans le mauvais sens du terme, mais plutôt d'ouverture du cœur, peut-être plus important. Donc, je veux bien croire que ça ait permis de développer et de tisser de nouveaux liens très forts au sein de ton équipe et de tes top manager, en plus du plaisir de partager quelque chose qui toi te parle et t'anime personnellement. Tu vois, on en revient un petit peu à ce sens altruiste, à ce sens transcendantal. Quelque part, quand tu découvres quelque chose qui a profondément changé et influé ta vie, tu es content de pouvoir le donner à d'autres personnes. Et sur les treks et cette connexion à la nature, c'est assez marrant parce que j'ai lu La tribu des mentors. C'est un livre de Tim Ferriss qui a interviewé 100 des leaders les plus influents dans leur domaine. Donc, tu as des chefs cuisiniers, des entrepreneurs, des athlètes de haut niveau, des sportifs, etc. Et justement, il y en a beaucoup qui disent que quand ils se sentent submergés ou face à un problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre, leur solution, c'est d'aller marcher dans la nature, tout simplement. Et c'est vrai que on a tendance à oublier qu'on est des animaux, mais notre biotope initial, c'est la nature. Et le fait aussi d'être un petit peu moins focus, tu vois, quand on est en train de travailler sur un ordinateur, on a le regard qui est vraiment très fixé sur un point précis qui est tout petit, tu vois. On regarde pas autour de nous, on est vraiment très concentré sur un petit rectangle. Et donc, on est dans cette espèce d'effet tunnel, tandis que dès que tu es dehors, tous les sens s'éveillent, tu vois. C'est comme une ouverture de l'esprit, une ouverture de l'âme, une ouverture du cœur, de tous ces sens, etc. Et d'ailleurs, tu parlais du froid. Il y a un autre truc qui pourrait te plaire. Je ne sais pas si tu connais le yoga Tummo. C'est une autre pratique du froid, initialement développée par. Bon, enfin, moi, je l'ai fait avec son fils qui s'appelle Patrick Daubard, Maurice Daubard, voilà, qui a été amené en France par Maurice Daubard, qui est inspiré des traditions tibétaines. Tu sais, ces moines tibétains qu'on voit parfois mettre une couverture, une serviette remplie d'eau. Alors qu'il fait moins 10 dehors et par la chaleur de leur corps qui arrive à la sécher. Et donc, dans cette semaine de yoga Tummo que j'avais fait, le matin, tu fais une assise dehors en maillot de bain par moins 10 sur la neige. Le soleil est caché derrière la montagne et sur les 5 dernières minutes, tu as le soleil qui pointe derrière la montagne. Alors déjà, là, je peux te dire que tu reprends toute la conscience, la gratitude du soleil que pourtant tu vois tous les jours devant toi. Et puis après, tu fais une marche. Une marche toujours en maillot de bain, en raquette. Et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est le fait de pas avoir de vêtements, justement, te rend vulnérable et connecté à tes sens. Et donc, tu sens beaucoup plus le vent, le bruit des oiseaux, les odeurs des pins. Tu vois, comme si tous tes sens étaient en mode extrasensoriel, voilà. Vraiment ouvert. Et t'as vraiment cette redécouverte de l'interaction pure et minérale, on va dire, presque avec la nature, avec ton environnement. Et personnellement, j'ai trouvé ça très inspirant. Et puis après, tu as un bain froid dans un lac gelé. Donc ça, c'est assez semblable avec la pratique que tu fais déjà.
Non, mais effectivement, avec la méthode Wim Hof, on avait fait ce genre de marche aussi en short de nuit, très tôt le matin. Et ce contact, il est extrêmement puissant. Et ça rejoint aussi ce contact avec la nature, c'est aussi l'idée que c'est quelque chose qui nous dépasse et qui est plus grand que nous. Donc, dès qu'on se raccorde, à mon avis, à cette notion-là, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous dépasse, on se reconnecte aux choses. On sort de son petit truc, de son écran d'ordinateur. Et puis, à nouveau, on voit l'immensité des choses et on ne reste pas complètement noyé dans un petit machin qui ressemble à rien. Donc, pour moi, ce contact-là, il est très important. Puis j'aime beaucoup le sport aussi. Aller voir des événements sportifs, je ne peux pas dire que ce soit un moment d'évasion, c'est pas ça, mais il y a toujours plein de choses à apprendre dans le sport, dans ce qui se passe dans un match de foot, de rugby, de tennis. Et dans ce qui se passe après dans la vie, il y a beaucoup de choses où on voit que la façon dont se comportent les gens, s'ils arrivent à se maîtriser, à rester suffisamment zen, relâchés, ben ils sont souvent plus performants que. Bien sûr, il faut de l'engagement, bien sûr, il faut un tas de choses, mais s'ils ont ce truc de rester dans cette posture-là, je pense ils sont beaucoup plus performants, beaucoup plus précis dans ce qu'ils vont faire aussi. Donc il y a des bons moments aussi d'aller voir des. J'ai vu le match d'ouverture là de la Coupe du Monde France-Nouvelle-Zélande, c'était un super bon moment. Donc ça j'aime bien ce genre de moment aussi intense dans un stade. Ça c'est bien, c'est des bonnes sensations qui sont complètement différentes, mais que j'apprécie aussi.
Que tu partages avec tes enfants?
Ben là j'étais dans le domaine professionnel en fait, j'étais invité par. J'étais pas avec mes enfants, non, non, pas cette fois-là. Mais pas mal de matchs avec mon fils où il y a d'autres occasions, ouais, qui aiment bien le sport aussi.
Qu'est-ce que tu as essayé de leur transmettre? Si de ton expérience, il y avait un, deux ou trois messages vraiment fondamentaux que tu aimerais transmettre à tes enfants et aux auditeurs qui nous écoutent, quels seraient-ils?
Ben, c'est d'avoir une posture où. Ben, on dit les choses, on dit ce qu'on va faire, ça c'est toujours important. Et après, ça peut être des choses simples hein, qu'on va dire, mais c'est annoncer ses intentions. Je pense que annoncer ses intentions, c'est toujours très important auprès des équipes. Pas se dire c'est bien, c'est mal, qu'est-ce qu'ils vont penser ou je ne sais quoi. Non, non, c'est d'être dans ce. Dans ce niveau d'intention-là. Après, c'est aussi de mettre de l'intensité dans ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire qu'il faut vivre les choses intensément. Faut pas aller se noyer uniquement dans son intellect. Donc, faut laisser aussi cette notion d'intensité, à mon avis, elle est importante. Faut vivre des passions. Faut faire les choses par passion, par amour. Je mets ça derrière l'intensité. Et après, c'est de faire les choses avec une intelligence émotionnelle dans les situations qu'on va avoir. Alors, j'ai un petit peu les trois I, hein. J'ai fait attention, intensité, intelligence. Mais c'est vrai que c'est des points de repère assez importants pour moi. Et pour que l'entreprise fonctionne, si pour eux, je me recense sur le domaine professionnel, parce que les deux travaillent dans l'entreprise, hein, donc c'est vraiment de préserver les valeurs humaines de l'entreprise. Les trois valeurs d'Alticap, c'est l'écoute. Donc l'écoute, déjà, c'est une posture humble. On commence par écouter avant de râler, avant de faire je ne sais pas quoi et de faire la leçon à tout le monde. On commence par écouter. La deuxième valeur, c'est l'engagement. On dit ce qu'on va faire et on fait ce qu'on a dit. Donc, on la retrouve aussi à travers ça. Et la troisième, c'est l'évolution. C'est-à-dire que, bah, on est dans un monde qui bouge beaucoup. Donc, quand on est chez Alticap, c'est d'accepter de s'adapter parce que les technos évoluent, parce que un logiciel qu'on est en train de lancer, bah, il peut être arrêté du jour au lendemain. C'est arrivé par certains éditeurs. Et puis, il faut être capable de se remettre en question. Donc, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et c'est normal. La normalité, c'est qu'elle ne soit pas un long fleuve tranquille. c'est juste se dire faudra être prêt à affronter des événements pas agréables, mais hélas, dans une vie, il y en a toujours. Et ça ne, c'est pas ça qu'empêche le bonheur. Il y a des gens qui ont connu très peu d'événements très désagréables dans leur vie, mais ils sont pas heureux du tout finalement, hein. Il n'y a pas de corrélation entre les deux événements. Donc déjà leur transmettre tout ça, ça serait déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Et sur l'évolution, tu as parlé par exemple tout à l'heure, tu as pris cet exemple un peu pour rigoler d'une startup qui se lancerait sur l'intelligence artificielle et qui revendrait un an après des dizaines de millions son entreprise. Mais le fait est qu'on est quand même dans un monde qui va de plus en plus vite. Celui que tu as connu quand tu avais 20 ans est complètement différent de celui que tu connais aujourd'hui à 60 ans. Et pour autant, j'ai l'impression que la société, d'une certaine façon, nous pousse à nous hyper spécialiser. On valorise très très fortement le fait de devenir expert de son domaine et on a tendance à dire que la curiosité est un vilain défaut. Or, si tu t'hyper spécialises, ben, potentiellement, tu prends aussi le risque de plus du tout comprendre le monde dans lequel tu vas vivre 20 ans, 30 ans plus tard. Comment est-ce que toi, tu as cultivé cette curiosité et cette notion d'évolution qui fait partie des valeurs fondatrices de la culture de ton entreprise? Comment est-ce que tu progresses? Comment est-ce que tu restes curieux?
Oh ben moi, le fait d'être à l'APM, j'en parle assez souvent, mais ça m'a énormément
Ouais.
apporté, hein. C'est l'Association du progrès par le management. Donc, ça a été créé par le patron de Sodexo, Pierre Belon, il y a très longtemps. Et le constat, c'était que le développement de l'entreprise va passer par le développement du chef d'entreprise et que le chef d'entreprise doit se remettre en question. Donc, je sais que c'est rendez-vous à l'APM avec. Donc, le premier mardi de chaque mois à l'après-midi, c'est des rendez-vous très, très intéressants parce qu'on a des experts sur énormément de domaines. Ça peut être des domaines de culture générale, ça peut être des domaines beaucoup plus sur l'entreprise, des domaines sur le développement personnel. Donc, c'est vraiment des rencontres très, très enrichissantes. Et on y pratique aussi ce qu'on appelle des codev. Donc, c'est quoi un codev? C'est que. Il y a un client. Donc, le client, il arrive avec une problématique. Donc, on est un groupe, on est 6 ou 7, par exemple. Et son sujet, il a un sujet avec, je sais pas quoi, moi, avec un de ses associés, avec un salarié, une question sur le développement de son entreprise. En tout cas, quelque chose qu'il gratte très fort et dont il peut parler avec personne, ou en tout cas, pas avec les personnes de son entourage. Et lors de ce codev, donc il y a tout un mécanisme où il va y avoir ce client, et puis après donc les gens qui vont être autour de lui vont lui poser beaucoup de questions. Et à travers le questionnement qui va être posé, on va l'amener à reformuler sa question du départ, et puis on va l'amener à avancer. Et c'est souvent extrêmement puissant parce que les questions qui vont être posées. C'est un peu du mode coaching avec 6 ou 7 personnes autour de soi, mais sans que ça s'appelle du coaching. Mais les questions qui vont être posées à travers ce questionnement vont souvent être très, 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 très puissantes pour celui qui le vit. Moi, ça m'est arrivé d'être client et puis aussi d'être dans les deux rôles. Et à chaque fois, c'est des moments très, très importants. Donc, ça, c'est des bons moments d'ouverture et puis de curiosité sur tout ce qui m'entoure, hein. Après, ça va être des lectures. Je suis passionné par tout ce qui tourne autour du coaching. Je lis beaucoup autour de ça. Si je continue à travailler après Alticap, et c'est un peu mon projet, le jour où j'arrêterai, j'aimerais me consacrer au coaching de dirigeants. Parce que je trouve ça passionnant. Je trouve que le dirigeant, c'est un métier où on est seul. C'est une solitude. À un moment donné, on est toujours seul. Les décisions ultimes, c'est vous qui les avez. Même si vous avez des gens autour de vous, il y a une vraie solitude. Un vrai sentiment de solitude. C'est pas de la solitude physique, hein. Vous pouvez avoir dans une pièce avec 100 personnes. Mais vous pouvez vous sentir complètement seul face à une situation. Donc beaucoup de lectures autour de ça. Et ma curiosité, en fait, elle est nourrie beaucoup par tout ce qui va tourner sur le développement personnel, tout ce qui va tourner, tu parlais du Tibet, tout ce qui va tourner autour de la culture bouddhiste. Enfin, je suis très attiré par tout ça, toute la culture indienne, tout ce qui vient de l'Ayurveda. Donc, je suis très imprégné de tout ce monde-là. Je fais régulièrement une cure ayurvédique au Maroc. Donc, je sais pas si tu sais ce que c'est. Donc, ça, c'est
Non, ça consiste en
en
quoi?
fait,
Raconte-moi.
l'Ayurveda, ça vient de l'est de l'Inde. C'est millénaire et en fait, tu te nourris d'une certaine façon. Légumes, légumineuses, céréales. Et il y a tout ce qu'il faut. Et quand tu fais ces cures-là, donc il y a de la nourriture et puis après ce sont des soins ayurvédiques, donc ce sont essentiellement des massages, mais tu as aussi de l'huile chaude sur la tête, donc toute la culture en fait qui vient de l'Ayurveda et qui apporte beaucoup de bien-être et qui est aussi un recentrage en fait sur soi. On dit on est ce qu'on mange, donc déjà de bien manger, de bien se nourrir avec des bons produits et pas manger des McDo et des saloperies, c'est déjà une belle chose. Donc ça, j'en ai pas parlé au début, mais c'est un bon moment de ressourcement pour moi, cette cure que je fais tous les ans au mois de mai. J'ai ce rituel aussi, ça me fait un bien. C'est pas un jeûne hein, parce qu'on mange, hein, mais c'est pareil, c'est un bon moment de ressourcement. Voilà la curiosité que j'ai, ça tourne autour de tous ces domaines-là et qui vont tourner sur le développement personnel, d'aller à la découverte de soi, de vraiment être bien, de vraiment être aligné. Donc tout ce qu'il peut y avoir, que ce soit de la littérature autour de plutôt ce qui vient de l'Inde et de l'Ayurveda ou plutôt anglo-saxonne autour de l'école de Palo Alto, de tous ces auteurs-là. Tout ça me passionne et me plaît beaucoup, oui.
C'est un grand écart là.
Oui, bien sûr.
Et justement, qu'est-ce que l'Occident, la pensée occidentale, la spiritualité occidentale pourrait apprendre de la spiritualité orientale, du bouddhisme et de cette vision de la vie? Plein de choses, j'imagine, mais.
Qu'est-ce qu'elle pourrait apprendre? Bah peut-être la culture du présent et de pas j'ai lu un bouquin sur la Chine et il y a pas très longtemps, ce qui différenciait la Chine et de l'Occident. Bah souvent les Chinois, la Chine, ils sont très très pragmatiques et très dans le présent, ils font peu de plans finalement et souvent ils vont être très pragmatiques dans une situation, et sans doute c'est cette capacité à être à laisser faire les autres, à prendre les bonnes idées. Et je trouvais que c'était assez intéressant. Donc, nous, on est dans une culture souvent très volontariste, où on s'oublie. En fait, le corps, tout ce qui est corps dans la culture occidentale, il est complètement oublié. C'est pas beau, c'est sale, c'est enfin il y a pas d'histoire de corps, la France c'est les lumières, c'est l'esprit des lumières, mais
Ouais.
il y a très peu autour du corps, autour de beaucoup de choses, beaucoup de choses viennent de l'Asie à mon avis, la conscience de ça
Et
vient.
de Palo Alto?
Alors Palo Alto, c'est beaucoup d'auteurs sur le coaching qui ont écrit enfin, tout, enfin, tout, quasiment beaucoup de choses viennent de cette école-là sur c'est quoi le coaching, et c'est venu en France dans les années 70, mais c'est ces écoles-là qui ont influencé tout ce qui est le coaching actuel vient de là-bas en fait. Donc, c'est pareil, c'est plutôt la culture anglo-saxonne et c'est le questionnement. C'est beaucoup de choses autour du questionnement, se poser les bonnes questions. Donc, c'est de la prise de recul. Et c'est beaucoup de choses autour du psy. Parce que c'est pas coach, il y a une frontière avec tout ce qui est psy, mais quelque part, on vient quand même beaucoup toucher à des choses qui vont toucher le psy, le mental, les émotions. On va beaucoup parler des croyances, des valeurs, des émotions, des besoins de la personne. Donc tout ça rejoint quelque part le sujet de prise de conscience du dirigeant, de qui il est, de qui il est vraiment, d'aller à la découverte de lui-même. Où est son ego dans tout ça? Où est sa solitude? Donc beaucoup de choses autour de ça en fait dans cette école-là. Donc tout ça m'intéresse et souvent les auteurs anglo-saxons m'intéressent tout ce qui est management. Enfin, je trouve que la culture qui vient de là-bas est beaucoup plus intéressante que ce qui a été écrit en France. Enfin, dans ce que j'ai appris quand j'étais étudiant, ce qui était intéressant venait plutôt du monde anglo-saxon. Nous, en France, il y avait peu de. On est plus sur l'administration. Le grand auteur français, c'était Fayolle, Henri Fayolle. Il a écrit sur l'organisation des mines, mais Alors, il n'y a pas eu que lui, je sais, mais souvent, on est quand même on est beaucoup dans cette culture-là. Enfin.
Et tu t'aménages, toi, des temps pour toi, justement, pour faire cette introspection, des sortes de bilans personnels, hebdomadaires, mensuels, pour réfléchir à ton action, à ta vie?
Bah, quand j'ai ces moments quand je fais ces stops là, la curie ayurvédique, les randos, etc. Oui, quand je marche, en fait, mes pensées, je réfléchis beaucoup.
Divague.
Ça, voilà, ça, je me laisse porter par mes pensées, en fait. Et c'est là que c'est intéressant. Après, oui, j'ai des temps là au niveau du travail où souvent je me pose seul autour d'une feuille, voir c'est quoi le radar du moment avec justement les choses vraiment importantes et non urgentes, éventuellement ce qui est important, urgent à traiter, et comment je traite tout ça. Donc j'ai ces petits rituels-là avec moi-même et aussi avec mon équipe très rapprochée autour de moi. Donc, mais oui, et quand on fait tous ces rituels en fait qui tournent autour du corps, c'est un moment de relâchement aussi. Et puis derrière, on est beaucoup mieux pour réfléchir. Mais on est dans un mode de pensée où les choses viennent naturellement à soi. Peut-être que le cœur, tu parlais du cœur tout à l'heure, justement revient et tout à coup, les choses s'ouvrent. Ça paraît beaucoup plus clair.
Et justement, à la lumière de cette clarté, ça veut dire quoi pour toi réussir sa vie? T'as déjà donné pas mal d'éléments de réponse dans cet échange, mais t'as 60 ans, t'es père de famille, tu es dans une phase de transition où tu veux laisser la direction, j'ai l'impression, d'Atika à tes enfants, et puis toi peut-être te diriger vers le coaching. Au vu de ton expérience, de ton parcours, de ta trajectoire, tu définirais comment aujourd'hui le fait de réussir sa vie?
Bah, c'est d'avoir le sentiment profond qu'on est soi-même, cette conscience de soi, et qu'on est aligné avec ça. On est aligné entre le ventre, le cœur et ce qu'il y a dans le cerveau, et que véritablement on a ce point de repère qui fait quand on fait ça, tout à coup on se sent bien, quoi qu'il arrive autour de nous. Et après, c'est probablement à travers l'entreprise qui a été une construction, bah, d'avoir construit quelque chose qui ira au-delà de moi. Donc il y a une idée de transmission. Donc se dire, on laissera cette trace-là, qui est une trace avec une entreprise qui s'est voulue humaine, hein, à l'écoute. Dans un monde qui est très compliqué, donc avec cette notion de plaisir aussi. On travaille ensemble, on se fait plaisir, et puis on avance et on vit une véritable aventure humaine. Donc, mais encore une fois, réussir sa vie, oui, c'est se dire qu'on est déjà là bien aligné avec soi, d'avoir la conscience de soi, et qu'on est en phase avec tout ce qu'on a fait et ça déjà c'est quoi qu'on fasse, ça déjà c'est merveilleux à mon avis.
Effectivement, je suis assez d'accord avec toi. À un niveau plus matérialiste, est-ce qu'il y a un objet que tu as acheté récemment et qui a changé un petit peu ton quotidien?
Un objet que j'aurais acheté récemment qui a changé mon quotidien, non, là comme ça, je vais pas te dire. Non, j'ai acheté, si j'ai acheté un plaid sympa en Grèce, là en vacances. Donc,
À chaque fois que tu le portes, il te fait penser à
il
tes
me fait
vacances.
passer à mes vacances. Il est posé sur un fauteuil ou un canapé. S'il fait un peu frais le soir, je mets sur mes jambes ou sur mes épaules et ça me fait penser à cette petite aux odeurs des vacances, à la chaleur de la Grèce, et c'est sympa.
Et alors, normalement, je te demande trois habitudes que tu as au quotidien et qui te permettent d'exprimer pleinement ton potentiel. Tu as déjà parlé de la respiration Wim Hof, des bains froids, des automassages avec les rouleaux de massage. Donc, probablement que tu as déjà fait le tour, mais s'il y a quelque chose d'autre qui fait partie de tes journées et qui sont vraiment importants dans cette intensité, dans le fait d'exprimer toute l'intensité et toute l'énergie vitale que tu as au fond de toi.
Parce que le matin, pour me rappeler, alors, la douche froide n'est pas de la méthode Wim Hof, hein, mais le matin, je prends une douche froide, je me lave à l'eau chaude et je prends une douche froide ensuite, je laisse couler l'eau pendant au moins 1 minute à l'eau froide. Le midi, pas forcément tous les midis, mais je fais le cycle de respiration de Leonardo, les 20 minutes avec la respiration et les apnées. Et le soir, quand je rentre, ben je fais le rituel des rouleaux. Alors, je
Ok.
fais pas l'ensemble tous les jours, mais j'essaie de le faire, mais à coup sûr, je fais les rouleaux et la douche froide, c'est fait vraiment très, très régulièrement, et la respiration peut-être 3-4 fois par semaine, pas forcément tous les jours, parce qu'il faut, d'un point de vue pratique, il faut que je puisse m'allonger. Donc il y a des endroits où le midi je suis à l'extérieur, je ne vais pas m'allonger par terre, c'est un peu plus compliqué. Mais ça, c'est des vrais rituels qui font qu'aujourd'hui, les gens que je rencontre, même si là on a une période un peu chaude avec Alticap sur plein de sujets, de relancer l'activité sur septembre, après un environnement économique qui est quand même compliqué autour de nous. Les gens que je recroise me trouvent très, très, très en forme, très serein. Donc c'est toujours agréable, mais je pense que c'est tout simplement ces rituels-là qui font que ça donne un bon tempo. Et le fait qu'on soit, j'ai dit pas mal de fois le mot, mais qu'on soit congruent, qu'on soit aligné. Et dès qu'on est aligné avec ça, si on n'est pas aligné, il y a un truc qui merde, on le sent au fond de soi. On le sent au fond de soi. Et dès qu'il y a cet alignement entre le corps et l'esprit, l'homéostasie dont tu parlais tout à l'heure, je pense que le reste, on se dit, mais le reste, on va l'embrasser, le reste. On va l'embrasser. On va tout simplement aborder ce qu'on doit aborder, puis on va le traiter. Donc si on est dans cette posture-là, à mon avis, on est beaucoup mieux que d'être toujours sur une espèce d'accélérateur, en disant qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, toujours en mode comme ça, et c'est insupportable pour soi et pour les autres.
Ouais, c'est très inspirant. Tu aurais un défi à donner à nos auditeurs pour les 15 jours à venir? Quelque chose qu'ils pourraient faire une fois ou bien tous les jours et qui leur permettrait probablement de découvrir une nouvelle facette de leur vie, de leur personnalité, de leur énergie?
Alors moi, je leur conseille la douche froide, parce que ça, tout le monde, il n'y a besoin d'aucun matériel, là. Ça peut être possible, ça peut être mis en action très vite. Et il suffit, alors pour que ça devienne vraiment une routine, il faut le faire 60 jours. Pour que ça ait une vraie efficacité, et vraiment,
On nous a menti du coup avec les 21 jours.
ouais. mon avis, les 21,
Arnaque.
c'est de l'arnaque. Ouais. Alors, il y a un débat là-dessus, mais pour avoir eu divers experts sur le sujet, vraiment les habitudes s'ancrent au bout de 60 jours. Donc c'est de faire ça, et parce que ça apporte vraiment une. Dès le matin, on se connecte bien à soi-même dès le matin. Et tu parlais, toi, tout à l'heure, de tes façons de travailler entre le matin et l'après-midi, que le matin, tu te concentrais sur les choses importantes. Bah, quand tu démarres la matinée comme ça, déjà, tu te reconnectes bien. Et donc, je fais ça, moi, depuis 2 ans maintenant. Tous les matins, sauf de rares exceptions où ça pollue, mais sinon, c'est vraiment quasiment tous les matins. Donc, bon courage à tous pour la douche froide, alors.
Ouais, carrément. Moi, je suis aussi un adepte. Tu prêches un convaincu. Je suis un adepte du froid. D'abord des douches froides. Et puis maintenant, j'ai la chance d'habiter au bord du lac Léman. Et donc, tous les matins, avant de démarrer ma journée, je vais me baigner dans le
Ah
lac.
bah c'est encore
Alors
mieux.
évidemment, l'été, c'est pas hyper challengeant. Mais là, elle commence à diminuer un petit peu. Et puis, quand on va arriver un petit peu plus dans l'hiver, elle descendra à 8 degrés. Donc là, ça commencera à ressembler à quelque chose. Il y a un prochain invité que tu aimerais entendre sur Limitless Project pour parler de potentiel humain?
Eh bah écoute, as-tu Romain Vandendorp?
Ça ne me dit rien.
Ben, Romain Vandendorp, qui est
Qui
justement,
est-il?
ben, lui, c'est le record du monde du froid. Il reste dans la glace pendant plusieurs heures. Et
D'accord.
c'est aussi un expert autour des neurosciences.
Ok,
Donc moi, je l'ai
super.
rencontré lors d'un séminaire APM. Et puis après, j'ai revu aussi chez Alticap. Et il est vraiment passionnant.
D'accord.
Et
Tu pourrais nous mettre en relation?
ouais, bien sûr. Bien sûr.
Cool.
Je vais faire un mail et je vous mets en relation. Et Romain va intervenir à
Merveilleux.
la réunion annuelle Alticap. Je fais toujours la réunion annuelle le 12 octobre. Donc moi, j'interviens à peu près 1 heure. Et à chaque fois, je fais venir un expert sur une thématique. Et il va venir parler de neurosciences.
Ok, bah, hyper intéressant.
Voilà.
Comment est-ce qu'on fait pour te suivre? Est-ce que tu partages tes actus quelque part si on a envie de te contacter, d'échanger avec toi, de se faire coacher?
Bah, le mieux, c'est de me contacter sur LinkedIn. Après, il y a mon email, hein, si les gens veulent. Mais je suis plutôt
Non, mais
actif
je vais
sur
être.
LinkedIn. Je suis pas sur
Voilà, je
les.
mettrai ton profil LinkedIn.
Ouais, je suis plutôt LinkedIn. Je suis pas sur les autres réseaux. Enfin, je suis essentiellement sur LinkedIn, oui. C'est plus facile.
Ok, très bien. Bah, je mettrai le lien dans l'article lié. En écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast, je te propose de faire un petit check-out et me dire comment est-ce que tu te sens maintenant.
Bah, je me sens très bien. Je suis arrivé, je te l'ai dit, j'étais un peu fatigué ce matin. Et c'est vrai que de reparcourir tout ce qu'on a parcouru, ça apporte beaucoup de satisfaction et puis d'apaisement. Donc merci à toi, David. Merci beaucoup.
Mais c'est moi qui te remercie, Eric. En tant que je suis jeune chef d'entreprise, pour autant j'ai toujours été entrepreneur, donc j'ai déjà eu mon lot de réussites et d'échecs. Mais tu vois, je suis vraiment dans cette phase de transition grâce à une forme de sérendipité d'ailleurs. Tu vois, un petit peu comme toi sur ton chemin où tu pensais pas forcément tomber sur ce côté conscience spirituelle. Cœur, etc., alignement, eh bien, ça s'est imposé à toi. Moi, quand j'ai lancé Limitless Project au début, je cherchais les meilleurs hacks pour rendre le corps humain plus efficace, plus efficient, pour être une meilleure machine. Et en réalité, ce que j'y ai trouvé, c'est plus de conscience et puis la volonté de trouver justement ce sens altruiste, ce sens transcendantal et de contribuer à autre chose. Donc, ça a mis en mouvement beaucoup de choses dans ma vie. Notamment vis-à-vis de mon entreprise et puis de l'équilibre même entre le temps que j'accorde à mon travail, à ma famille, à mon exploration de la vie, de moi-même. Tu vois, l'exploration est quelque chose qui me passionne réellement. Et donc, je rejoins beaucoup de choses que tu dis et en même temps, je trouve que la richesse de ton expérience par tout ce que tu as construit et puis ces différentes phases qui ont ponctué ta vie est vraiment riche d'enseignements. Donc, je te remercie pour cette conversation, pour ce partage très, très authentique, très fluide, très naturel, qui m'a beaucoup inspiré.
Merci à toi.
Tu connais l'effet papillon ? Un battement d'ailes peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com.
As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B, and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about Wix. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be, to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply.
Tired of ads crashing your comedy podcast party? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com/adfreecomedy to catch up on the latest episodes without the ads.
Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.
JamesAllen.com is the online destination to easily design a customized engagement ring and save up to 50% compared to traditional stores. You pick a diamond, whether it's lab-created or earth-created, James Allen has over 200,000 conflict-free stones. Then you pick your ring setting and metal. And if you need some help, they have real-time diamond consultations available where an expert can walk you through it all. Get 25% off your order at JamesAllen.com code ACAST. That's JamesAllen.com code ACAST.